Le CIMI 2024, en partenariat avec Envie de Ville sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis. Voilà, nous avons notre séminaire, notre émission Envie de Ville qui nous permet de prendre de la hauteur. Attention, prendre de la hauteur, quand nous nous perdons pas de vue non plus, hein, quand même, hein, pas exagéré. Quand on vous donne aussi certaines clés avec nos amis d'Envie de Ville et le groupe Tech City, bien évidemment, comment les collectivités locales peuvent être encore portées des innovations au sein de leur territoire. Vous allez voir, c'est un vrai débat et c'est un vrai sujet avec un élu local qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être sur le plateau. Bonjour Jean-François Bigier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Jean-François, vous êtes le président du groupe EDI au conseil régional, président du CIUM de la vallée de Chevreuse, et vous avez mené d'ailleurs en 2023 une mission pour un choc de décentralisation en Île-de-France au sein de la région Île-de-France. Tout un programme, on va en parler. Et je vous le dis, les amis, on va envoyer un peu de bois. Merci à vous, Jean-Luc Porcédo, d'être sur le plateau.
Bonjour, merci Sylvain de nous accueillir.
Le grand spécialiste de l'aménagement du territoire, mais pas que. Vous avez une vision à 360 degrés multipolaire de l'urbain. Vous êtes directeur général de Nexity Transformation des Territoires, président de Ville et Projet et membre du comité exécutif de Nexity, qui est le leader aujourd'hui du logement abordable. On en a parlé ce matin, Jean-François, beaucoup, effectivement. C'est vrai que il n'y a pas plus beau mandat que celui d'un élu local, mais ça on en a souvent parlé, vous et moi. Et vous avez de réelles envies, de réelles passions de vos administrés, de l'intérêt du général à l'échelle Iris du quartier, de la rue. Vous êtes à portée réelle finalement dans votre mandat de ce que la France peut produire de mieux. On ne cesse de vous transférer des compétences et on vous demande de faire de l'innovation. Comment on fait quand on est maire d'une très jolie ville comme la vôtre en essayant de faire coexister toutes ces injonctions presque contradictoires, de vous demander plus avec moins, et à un moment donné de vous placer dans des équations où politiquement c'est quand même assez difficile à décrypter.
Bonjour d'abord, et alors je suis, en plus d'être conseiller régional, il se trouve que je suis vice-président de l'Association des maires de France, et au sein de l'AMF, étant vice-président, je co-préside la commission transition écologique. Déjà, avant d'innover, on aimerait même pouvoir faire notre boulot correctement. Or, deux choses vont finir par nous tuer, Sylvain. L'excès de normes et de bureaucratie, qui nous mine, qui nous plombe, qui nous contraint, qui nous empêche d'agir, et l'assèchement de nos ressources, c'est-à-dire de nos ressources fiscales. Car à force de nous mettre sous le robinet des dotations, qui se ferment année après année, on ne pourra plus rien faire dans notre commune. Et on a l'impression que les gouvernements font tout pour nous assécher financièrement, pour nous gaver de normes, de bureaucratie, et bientôt, nous ne pourrons plus agir. Donc avant même de parler d'innovation, parce que nous avons plein d'idées innovantes pour nos communes, on aimerait pouvoir agir au quotidien pour nos concitoyens, ce qui devient, disons-le, de plus en plus compliqué.
Jean-Luc Porcédo, vous connaissez bien les élus locaux, même plus que bien. Ça vous étonne pas ce que dit Jean-François Bigier ?
Non, je crois que c'est plus que la réalité. C'est une tendance lourde depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose que forcément, et on partage leurs interrogations, leurs inquiétudes de la plupart des élus sur ces sujets-là, mais c'est quelque chose que l'on partage dans la vie de nos métiers. Puisque nous sommes, nous, tous les jours, des partenaires des collectivités, et ce que l'on produit, ce que l'on construit, ce que l'on aménage a toujours une incidence sur les équilibres, on va dire, budgétaires des collectivités. Quand on fait un quartier, quand on aménage et qu'on sort 300 logements, eh ben, c'est un groupe scolaire. Quand en face, la collectivité, elle a des contraintes, et elle a surtout, moi je crois que c'est surtout ça qui est le plus, en essayant de me mettre à la place des élus, le plus contraignant, c'est que la suppression de la capacité à lever l'impôt est un frein, on va dire, à la capacité à développer et innover. C'est-à-dire qu'on ne choisit même plus. Moi, je suis un simple citoyen. Quand un maire augmente des impôts, parce que l'impôt est nécessaire pour le bien public, en disant je reconstruis, je développe, j'aménage, enfin, je construis des écoles, je développe une zone d'activité, je crée une crèche ou un équipement culturel ou sportif, l'impôt est utilisé. Aujourd'hui, les maires, ils peuvent presque plus faire ça. Et c'est une vraie contrainte. Et nous, on l'a. Alors, dans nos métiers, on essaye de trouver les moyens d'accompagner les collectivités. Quand on est concessionnaire d'une ZAC, t'as des participations, ça aide la ville, entre guillemets, sur les équipements à construire. Quand on met en place un PUP, ça aussi permet d'accompagner l'investissement. Mais souvent, la question pour une collectivité, c'est pas simplement l'investissement, c'est le coût de fonctionnement. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est dans un cheminement qui n'est pas nouveau, mais qui prend des proportions extrêmement, j'allais dire, inquiétantes. Pour un élu, je pense que je pourrais dire ça, en tant qu'acteur économique, je crois qu'elles sont inquiétantes parce qu'elles renvoient quelque chose sur le secteur de l'économie, et parce qu'en même temps, là, on entend tous les jours les maires et les élus qui nous racontent ça, il y a la contrainte de l'administrateur qui veut plus de services, plus d'équipements, puis il y a la contrainte économique qui fait qu'il y a un certain nombre de choses, à un certain moment, il faut faire des choix. Et nous, on est dans ce système-là, à notre place pour essayer d'accompagner, mais en même temps, parce qu'il faut aussi dire les choses, on le fait aussi parce que la situation des collectivités a un impact très lourd et de plus en plus par rapport à des opérateurs économiques.
C'est fondamental ce que vous dites. D'ailleurs, il y a une équation qui est quand même difficile à résoudre. D'où viendra le salut, Jean-François Vigier ? Est-ce que c'est rendez-vous aux urnes ? Est-ce que c'est une modification radicale de notre système de gouvernement, à savoir comment on gère la relation vis-à-vis des collectivités locales ? Je regardais simplement par rapport aux statistiques. Ça se jacobinise à fond. Depuis 30 ans, vous qui plaidez pour une décentralisation, vous qui êtes finalement pour doter de réelles compétences avec les recettes au niveau des collectivités locales, mais aussi des véhicules, régions, EPCI, interco, communautés d'agglo. Comment on fait pour sortir de cette équation ? On a fait le constat, il est dramatique et il est franchement inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait ?
En fait, il faut dire les choses aussi. La situation dans laquelle sont les élus locaux, cette espèce de bureaucratie qui nous étouffe, elle vient de l'administration centrale. Les politiques n'ont jamais la capacité de nous donner plus de respiration. Mon prof de Sciences Po, il y a 40 ans, me disait Philippe Lebel, François Mitterrand, même combat. Philippe Lebel a créé l'État français en réaction aux seigneurs qui étaient en train de s'émanciper. Plusieurs siècles après, c'était la même situation. Et je dirais aujourd'hui, Philippe Lebel, Macron, même combat. C'est-à-dire que vous avez une administration centrale qui s'est créée, qui est tentaculaire et qui a envoyé ses séides dans les départements au moment des lois de décentralisation pour contrôler ce que font les collectivités. Donc, quand je dis que la norme nous tue, je ne raconte pas d'histoire. Nous avons des contrôles a priori, a posteriori, sur tous les sujets. Vous recevez une norme différente chaque semaine sur un sujet que vous pensez avoir intégré. Mais on n'a aucun moment de respiration. Il nous faudrait, même dans une ville comme la mienne de 10 000 habitants, il nous faudrait un service juridique d'une entreprise pour commenter, pour comprendre, pour intégrer les normes, les règlements qui nous arrivent dessus. Donc il faudra à un moment dans ce pays que les politiques reviennent sur l'organisation administrative de ce pays. Sinon, on va mourir. C'est clair. Et je vais vous citer un exemple. Prenons la transition écologique et la transition énergétique. Grande cause nationale. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut rénover tous les bâtiments.
Oui.
Tous ceux qui sont des passoires. Donc nous, depuis 2 ans, 3 ans, nous les élus, qu'est-ce qu'on dit à nos concitoyens ? Rénovez vos bâtiments, rénovez vos pavillons, rénovez vos immeubles. Mettez du photovoltaïque. Qu'est-ce que font nos concitoyens ? Ils nous envoient les dossiers pour faire de la rénovation énergétique par l'extérieur, parce que ça coûte moins cher, et poser du photovoltaïque pour faire des économies. L'architecte des bâtiments de France émet des avis défavorables. Non mais, vous imaginez ça ? Dans les services de la préfecture, il y a un service qui relève du ministère de la Culture, qui exige qu'il est intouchable, parce qu'il a sa vision de ce que doit être l'environnement, et qui émet des avis négatifs. Donc, vous imaginez comment notre parole, elle est décrédibilisée, comment celle de l'État est décrédibilisée. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui.
Question complémentaire, je ne peux pas résister. Hein. Vous parlez de l'administration centrale. J'entends pas ministre et politique. Hein.
Mais ça, ce n'est pas de l'administration. Ça, c'est des politiques.
Donc, ça veut dire, concrètement, Jean-François Vigier, quel rôle a le politique ? Est-ce qu'il peut peser sur une administration centrale, un peu dans le mécanisme de la théorie de Parkinson, qui fait qu'elle s'autogère et s'auto-nourrit par elle-même, son but réel, juste celui de compliquer et d'emmerder les Français ? Parce que, vous rappelez cette phrase de Georges Pompidou, qui disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. D'ailleurs, celui qui lui portait les parapeurs, rappelez-vous, dans l'histoire, c'était Jacques Chirac, hein, quand même.
Bon. Sylvain, je me suis battu sur deux sujets, tiens, très intéressant.
Ouais.
Premier sujet, en tant que président du syndicat de déchets de la Vallée de Chevreuse, mais en tant que VP de l'AMF, l'idée de fausses consignes sur les bouteilles plastiques lancées par le gouvernement il y a un an.
Oui.
Pour filer les bouteilles plastiques aux metteurs en marché. Alors qu'il y a un service public sur qui trie. Quand ils ont finalement, parce que Béchu, qui portait le ministère de la Transition écologique, a dit à son administration, stop, on arrête la fausse consigne. Ben eux, ils ont sorti le bonus-malus. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ok, on enlève la consigne, mais par contre, vous allez avoir des objectifs à atteindre, et si vous ne les atteignez pas, boum, vous payez. C'est ça, l'administration. C'est une capacité de se régénérer incroyable. Voyez ? Et c'est tout le temps comme ça. C'est, vous pensez qu'ils sortent par une porte, mais ils rentrent par l'autre.
Jean-Luc ?
Non, je voyais sourire.
Parce que
je souris par rapport à ce que vous dites, monsieur le maire. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Moi, j'ai un devoir de réserve en tant qu'acteur économique. Donc, je ne peux que sourire. Non, je pense que ce que l'on voit, nous, et ce que je dans un groupe opérateur immobilier comme Nexity, mais que je vois moi encore plus en tant que responsable de la branche aménagement dans le groupe, c'est que les procédures, ce sont des procédures, se sont rajoutées à des procédures, que le temps... Et très souvent, le temps, c'est beaucoup d'argent. Le temps du montage, de la sortie des projets a été multiplié par 2, par 3. Moi, j'ai des opérations qu'on a commencées il y a 15 ans. C'est pas possible. Et qu'on a des bateaux ivres qui avancent. On a des délais. Puis une semaine avant la fin du délai, hop, on va nous demander une complétude sur le permis d'aménager, l'étude d'impact. Et on repart pour des mois. Ça renvoie aussi à... on va dire, les difficultés quand l'État a trouvé de la compétence et des moyens en son sein. C'est-à-dire, moi, je peux entendre que des gens qui sont des fonctionnaires qui sont chargés d'instruire des tonnes et des tonnes de documents, et on a une ou deux personnes dans la préfecture ou la sous-préfecture, qu'à un moment donné, ça soit débordé. Néanmoins, on a additionné au fil des ans, et je crois particulièrement depuis 10 ans, ce que vous décriviez, monsieur le maire, c'est-à-dire on a rajouté, c'est un vieux classique de dire le mille-feuille institutionnel quand on parle de politique, mais on a 3000 feuilles additionnées sur l'administratif. Et donc là, on est aujourd'hui presque, non pas à la fin d'un système, mais on est vraiment dans des choses qui sont bloquantes. L'exemple pour moi, on en parlait en aparté, monsieur le maire, juste avant, l'exemple pour moi en ce moment le plus frappant, lorsque vous disiez, on a l'impression de sortir par une porte et revenir par la fenêtre, c'est ce qui se passe autour du ZAN. On a mis un temps fou, quand je dis on, les pouvoirs publics, les administrations, à penser un dispositif, je crois, sur lequel à peu près tout le monde est d'accord. L'extension des villes à l'infini, ce n'est pas une solution, ce n'est plus une solution par rapport aux enjeux environnementaux. On a pensé un dispositif tout seul dans un coin, dans l'administration centrale. C'est aperçu, les ministres, que la manière dont ça avait été pensé était complètement décalée avec la réalité du terrain. Finalement, ça a pris un peu de temps. Le ministre, dont vous citiez le nom, M. Béchu, a dit stop sur les décrets à un moment donné. Les élus se sont remis autour de la table et, dans leur grande sagesse, ont trouvé un consensus. Ça s'appelle une CMP, une commission mixte paritaire, entre le Sénat et l'Assemblée. Le texte de loi a été adopté. Les décrets ne sont pas encore sortis. Et là, hop, on lève la main, on dit on va changer de ZAN, on arrête tout, on va mettre en place le TRAS. Alors là, quelque part, j'ai envie de dire nous, en tant qu'opérateurs, mais je crois que nos concitoyens, les élus, surtout leurs représentants, que vous partagerez cet avis, on a besoin de stabilité dans les procédures, on a besoin de stabilité dans les dispositifs, et non pas d'aller-retour, d'instabilité, de remise en
cause. Ça impose, Jean-François Vigier, ça impose de revoir, faut dire les choses comme elles sont, le système de gouvernance et de gouvernement. Non, parce qu'on a l'impression que les institutions, Jean-François, quand je vous écoute, vous dites-moi, sont finalement dans un rythme de fonctionnement presque sclérosant, ou même schizophrénant, avec des normes qui sortent, et qui, quelque part, presque s'affranchissent de la décision des politiques qui devraient les guider, dans une certaine mesure. Parce que finalement, la seule chose qui est permanente dans ce pays, c'est l'administration centrale et pas les ministres. Donc, quelle est l'équation ? Parce qu'in fine, les Français en auront marre de cela. Ils congédieront cette place politique. On le voit avec le développement des partis populistes et démagogues. On le voit de plus en plus avec les extrêmes. C'est facile de dire aux gens, on va raser gratis demain matin. C'est beaucoup plus difficile de leur dire qu'il va falloir se serrer la ceinture, avoir une politique peut-être d'austérité budgétaire. Et pourtant, c'est la réalité. Le Canada l'a fait pendant 10 ans. Ils sont revenus à meilleure fortune. Voilà. Jean-François.
En fait, pour revenir sur ce que disait mon collègue, moi, mon sentiment, je vais vous citer un exemple précis, c'est que la loi échappe au législateur une fois qu'elle est votée. Et la différence, c'est le temps de la rédaction des décrets d'application.
Souvent, c'est ça.
Le décret d'application échappe au législateur puisqu'il est renvoyé à l'administration centrale. Et j'ai vécu un exemple...
Qui peut ne jamais être publié.
Totalement parlant. Oui, mais quand il est publié, parfois, c'est contre, sur certains points, l'idée du législateur. Ça complexifie le texte tel qu'il est sorti du Parlement. Exemple, les budgets verts. vous rendez compte que cette année, en 2025, les collectivités locales vont devoir instaurer dans leurs documents budgétaires tous les investissements environnementaux liés à la transition. Il faudra les mettre dans un budget à part, identifié, pour qu'on puisse voir quelle est la part que mettent les élus dans la transition écologique. Ils font déjà beaucoup, mais bon. Et après tout, c'est une bonne idée. Ça va nous permettre de progresser aussi. Ça nous permet aussi de caler quel type d'investissement on met dans les budgets verts. Exemple, vous faites une route. A priori, c'est pas vert. Mais si vous faites des mobilités douces quand vous refaites la route, forcément, il y a une part qui part dans une volonté environnementale. Et quand nous sommes arrivés, puisque j'ai représenté l'AMF avec les services de l'AMF, dans les discussions avec l'administration centrale pour la rédaction, on se rend compte qu'eux, ils ont tendance à tout fermer. C'est-à-dire que les critérisations, les critères, ça devait être des critères de l'État. Et l'État, quand il met en place des critères, vous imaginez, on a intérêt à s'y plier. Parce que d'ici à ce qu'on vous dise, on vous subventionnera si vous rentrez dans nos critères.
C'est ça.
Et on n'a pas accepté ça, mais les discussions ont pris du temps. Vous voyez, alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide. Bien et là, on a le sentiment vraiment que ça échappe aux législateurs.
Ça devrait être beaucoup plus fluide. Il y a une dernière partie dans cette intervention que je voulais vous exprimer. On en parle beaucoup. La ville se reconstruit sur elle-même, on l'a vu. Régénération urbaine, friche industrielle, relocalisation aussi d'industries de proximité, avec un déploiement multipolaire en mixité d'usage des centres d'activité, des zones d'activité. Je peux parler, par exemple, de l'OIN de Sénart, qui est un peu iconique dans ses projets d'aménagement. On le voit, quand il y avait des centres commerciaux, qui étaient, à une époque, pour recontextualiser, étaient bon, pas forcément très jolis, on va dire même assez moches, qui étaient en entrée de ville. Aujourd'hui, la ville a grandi, donc ils se retrouvent en cœur de ville, donc, notamment des hypermarchés, des supermarchés, et des zones qu'il faut recalibrer. Moi, j'ai envie de vous poser la question, je vais vous la poser à tous les deux, je vais demander d'abord à l'élu que vous êtes. Est-ce que c'est concret de dire qu'on trouvera une issue aux problématiques de densité, de demande de logement avec une démographie qui a quand même extrêmement doublé, voire même triplé, parce que je prends juste le phénomène de décohabitation qui a créé une demande de logement extrêmement forte. Est-ce qu'on arrivera, par ce simple fait, en essayant d'imaginer la ville sur elle-même, de la densité, de la verticalité, peut-être d'une certaine forme de retrait dans l'espace, peut-être, à y penser, ou d'un espace mieux partagé, avec tout ce que ça suppose, énergie, mobilité, renaturation, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vision et qui va fonctionner réellement? On a l'impression que c'est la seule alternative que l'on a aujourd'hui si on veut vivre dans une urbanité apaisée.
Ça, c'est une question essentielle et c'est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point. Tout à l'heure, mon partenaire de gauche a parlé du ZAN. Le ZAN, en fait, est une loi qui va vers un objectif vertueux qu'on partage tous, mais encore une fois, son application ne permet pas aux élus de l'appliquer sereinement. Et il y a deux mois, en bureau, l'AMF, après avoir mis en place un groupe de travail sur le ZAN auquel j'ai participé, a demandé un moratoire à l'État le temps de revoir la mise en œuvre du ZAN. Parce que les élus ont l'impression que ça se fait dans leur dos et qu'ils ne participent pas. Or, s'il y a bien une personne qui pourra reconstruire la ville sur la ville, c'est le maire. C'est personne d'autre.
Absolument.
Parce qu'il n'y a que le maire qui porte la vision à 15 ans. Dans un mandat de maire, vous êtes dans la vie quotidienne, tous les jours. Mais bon Dieu, il y a un truc de passionnant, c'est d'imaginer notre ville dans 15 ou 20 ans. Ça, c'est génial. Donc, on le fait avec tous les partenaires, évidemment, comme Next City, comme tous ceux qui travaillent avec nous.
Au-delà même de la temporalité de votre mandat.
Au-delà même de la temporalité. Et je vais vous citer un exemple de la situation dans laquelle, moi, je me trouve aujourd'hui à Bure-sur-Yvette, qui est un truc totalement angoissant. On a l'impression d'être au bord du précipice, mais c'est tout aussi passionnant. Ma ville est composée à 60% d'habitats pavillonnaires. C'est le modèle de Bure-sur-Yvette, comme beaucoup de villes de la vallée de Chevreuse et de moyenne couronne, dès lors qu'on est en bordure grande couronne. Et les habitants sont très attachés à ce modèle, et ils surveillent à ce que chaque révision du plan local d'urbanisme, je protège ces quartiers pavillonnaires, parce qu'ils viennent chercher un cadre de vie, ils acceptent de venir à 25 km de Paris, parce que c'est plus loin, parce qu'ils auront peut-être moins de services de proximité, mais ils auront ce cadre de vie. Et il y a 6 ans, des habitants sont venus me voir parce que sur un coteau, un des plus beaux coteaux de Bure, leur propriété en espace naturel de 20 000 m², ils allaient la vendre. Et comme on est dans un quartier pavillonnaire, je leur ai dit, OK, mais on ne mite pas le quartier pavillonnaire. Donc, même si je ne suis pas propriétaire, je vous demande, lorsque vous allez vendre au promoteur, de lui indiquer que je veux des pavillons. Eh bien, le promoteur, il est arrivé avec 20 pavillons sur des terrains de 1000 mètres carrés. C'était, Sylvain, il y a 6 ans, c'était il y a un siècle.
C'était il y a un
siècle.
C'était
il y a un siècle. Mais même si c'était 40 sur 500 mètres carrés.
Non, mais c'est surréaliste.
C'est parce que le projet ne s'est pas fait, il est resté en l'état. Et si aujourd'hui, on revenait me voir, cette famille revenait me voir, je leur dirais, vous allez me faire un projet le plus petit possible, sur la bordure du terrain, le long de la route, pour protéger tout ce que vous pouvez en espace naturel. Mais ce faisant, je mite mon quartier pavillonnaire avec du collectif. Et je vais aller devoir expliquer à mes habitants qui sont là, qui ont acheté parce qu'ils voulaient du pavillonnaire, qu'il va falloir maintenant penser à l'économie du foncier à la parcelle. Comment je vais expliquer ça à des gens qui sont venus chercher ce cadre de vie-là ?
C'est clair.
Et dès lors, écoute bien Sylvain, dès lors que je commence à miter du collectif dans le pavillon, ça va dire qu'il va falloir que j'amène des aménités à ces gens-là, des services, du commerce, et je vais créer des pôles de centralité dans une ville qui aujourd'hui n'a qu'un centre-ville. Ça, c'est la reconstruction de la ville sur la ville, et pour expliquer ça à mon concitoyen, je peux dire que je peux commencer à me retrousser les manches.
C'est clair.
Parce que ça va être compliqué. Voilà un vrai sujet qui est devant un modeste maire. Voilà.
Mais c'est tellement intéressant ce que vous dites que ça, on peut le transposer aux mêmes problématiques qu'ont vos collègues en France, dans les territoires. Exactement la même équation. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ce discours d'un élu local ? Là, pour le coup, terriblement efficace. Hein. Alors, c'est la réalité, ça. Hein.
C'est grosso modo ce que je peux entendre dans la plupart de vos collègues. C'est-à-dire ces sujets-là concernent tout le monde. Je fais juste un tout petit retour par rapport à tes propos précédents. Là, sur il faut tout faire disparaître ou il faut plus qu'il y ait de règles parce qu'on va s'étouffer. Je pense que la question, c'est comment on pose les règles. Lausanne est le très bon exemple, je crois, mais c'est vrai pour tout. La question de la règle, c'est pour donner un cadre commun. Et donc la répartition des compétences entre l'État et les collectivités, avec les élus, et aussi les opérateurs privés, est extrêmement importante parce qu'il faut refixer ce cadre. La difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'on a un cadre qui est fixé, mais que tout le monde passe à travers, en sort et en revient. Il n'y a plus aucun, comment dire, dialogue. Et Lausanne, c'était ça. Pas assez de dialogue dans la manière dont on a pensé la procédure, qui, vous avez raison, fait à peu près l'unanimité, parce que tout le monde sait qu'on est obligé de traiter ce sujet-là. Donc c'est vraiment la question de la méthode et... Beaucoup parlé en France, de la décentralisation, mais
oui, je suis d'accord. La
élus,
méthode.
Les élus sont au cœur des territoires et ce sont eux qui sont, on va dire, dans le cockpit avec cette capacité à faire. L'enjeu de l'État ou la responsabilité de l'État, c'est d'encadrer tout ça pour garantir des équilibres. Quand il y a besoin d'aller demain définir des territoires de réindustrialisation, il faut que l'État appuie ces démarches-là parce qu'il faut accueillir des grandes entreprises, des gigafactories, il y a besoin de mobiliser. Mais après, ce seront les élus, même dans ces endroits-là, qui vont être aux manettes du cockpit. Donc ça, c'est la première chose. Et dans un territoire, une collectivité, il y a toujours un cadre, ça s'appelle un PLU, ce sont les élus qui pilotent. Et c'est important de garder ça. L'exemple que vous donniez sur votre ville, c'est important de pouvoir dire, ah ben non, là, on va surtout pas prendre un chemin inverse qui va, excusez-moi l'expression, abîmer toute l'histoire du territoire et de la collectivité. Donc de garder toujours les moyens de faire, c'est important. Après, il faut savoir qui les fait et comment cela se répartit. Tu poses des questions sur comment on refait la ville. Il ne faut jamais oublier que la ville correspond aussi à des cycles sociaux, politiques, économiques. On a fait des villes quand il y a eu de l'exode urbain, on a fait des grands ensembles quand il y avait un besoin de logement.
Mais là, on refait la ville parce qu'en fait, par rapport au passé, tu as raison, par rapport au passé, la seule chose qui a changé, c'est qu'on ne veut plus l'étaler la ville.
Non, on refait la ville d'abord parce qu'il y a un besoin.
Oui.
Primo, il y a un besoin de logement en France. Ensuite, on refait la ville parce que les usages ont changé dans la ville.
Je suis d'accord.
Les usages, on ne vit plus à un endroit, travaille à un autre et consomme à un autre. Un troisième, on vit, entre guillemets, et nos concitoyens aspirent à avoir une ville, une vie, qui mélange les trois. Et donc la révolution des usages, elle est extrêmement importante. Et on reconstruit la ville avec un environnement, avec une réalité environnementale, c'est-à-dire une pression sociétale et climatique extrêmement forte. Et c'est là où on retrouve les chemins de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a besoin de refaire la ville en les refaisant là où on peut la refaire. Moi, je dis très souvent, on refait la ville sur les friches industrielles quand il en reste, sur les quartiers de gare, parce que ce sont souvent des leviers de développement du territoire communal, et sur les entrées de ville, parce que là, on a des zones interstitielles totalement artificialisées, qui sont, tu le disais tout à l'heure, entre la ville qui s'étend et la ruralité qui remonte, ou le périurbain, et qu'on peut, et c'est je crois le maître mot, transformer en améliorant considérablement la ville que l'on va faire, avec de la mobilité, avec des enjeux et des réponses énergétiques, des enjeux, on en parlait ce matin, parce qu'il s'engage sur ça, dans la gestion de l'eau, des enjeux de mixité d'usage et la concomitance d'investissement d'opérateurs. Je voudrais conclure sur ça, là, à ce stade, la concomitance d'investissement public et privé. Et la bonne manière de faire la ville ou de refaire la ville, c'est aussi de retrouver les moyens d'une coopération. Alors nous, en tant qu'entreprise Nexity, forcément, on dit ça et on le développe et on le fait dans un bon partenariat avec les collectivités. Le privé et le public, c'est aussi une manière, on va dire, de refaire la ville pour répondre. Premier sujet qu'on a abordé, la question des budgets des collectivités, mais aussi de refaire tout ça dans un climat apaisé, parce que quand les partenaires sont engagés sur des sujets urbains, mais aussi sur des sujets économiques et des sujets sociétaux, voilà, on trouve les voies du compromis et de l'apaisement.
Il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais vraiment vous exprimer. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Ce contrat iconique avec Carrefour, ce partenariat très structurant, qui fait que finalement on va utiliser l'empreinte au sol de zones commerciales qui vont être finalement en partie rendues à la nature, à des usages différents, tout en gardant l'esprit commercial également. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais avoir vos avis en tant qu'élu et en tant qu'opérateur. C'est celui du foncier, qui est vraiment le sujet central, et de la reconversion des friches dites industrielles. La France a-t-elle décidé de relocaliser de l'industrie ? A-t-elle décidé de devenir autonome en matière d'énergie ? A-t-elle décidé, finalement, à la lumière finalement d'un conflit ou d'une structure géopolitique qui pose question avec le conflit en Ukraine, mais également les leçons que le Covid a données, des problématiques de matières premières, de coûts et d'accès à l'énergie. Ces sujets-là, finalement, sont entremêlés, en réalité, puisque on vous demande, vous les élus, de rationaliser vos budgets. On vous demande d'ailleurs, on vous oblige d'ailleurs d'être à l'équilibre. C'est intéressant d'avoir un État endetté qui demande aux collectivités locales d'être à l'équilibre. Je trouve ça assez paradoxal. Comment on fait, finalement, comment vous voyez cet enjeu de relocalisation d'une industrie, donc d'une zone de pérennité économique, tout en allant, finalement, ce schéma de reconversion nécessaire des villes et de transformation environnementale? Et enfin, quels sont le corollaire avec le foncier, les choix énergétiques que vous allez faire, vous, en tant qu'élu?
Déjà, on peut le résumer très simplement. Renaturer coûte cher, alors que accueillir de l'emploi, c'est positif pour une ville. Donc, si on... Non, mais c'est pas le truc. Donc, si, effectivement...
Ça, c'est bon, c'est très bon, ça.
Hein, si on a tous envie d'atteindre un objectif, encore une fois, qui est vertueux, c'est protéger les espaces naturels, sensibles...
On est tous d'accord, là.
Ça, on veut tous le faire. Sauf qu'il y a des enjeux économiques. Ces enjeux, c'est la réindustrialisation. Et tous les territoires ont envie de participer à cette réindustrialisation.
Et bien sûr.
Et donc, il faut aussi les accompagner. Et c'est pour ça que la loi ZAN doit être une loi transparente dans sa mise en œuvre, totalement transparente. Il faut que tous les territoires y soient associés. Moi, j'ai assisté, pour représenter notre président David Lisnard, à des assemblées départementales de maires en province. La question du ZAN est un véritable casse-tête, parce que d'un territoire à l'autre, d'une commune à l'autre, ils ne savent pas qui va sortir le ticket gagnant et qui va être le pénalisé. C'est terrible.
Par contre, on sait déjà, avant de démarrer, que ceux qui ont été mauvais élèves avant, ils s'en sortiront mieux que les nouveaux, que ceux qui ont été bons élèves.
Voilà. Et c'est toute la question. Mais effectivement, sur le papier, quand on dit à un maire, il faut renaturer, ça coûte cher, comment on le finance? Parce qu'on n'a pas les moyens de le financer, alors qu'à côté, il y a des besoins d'emploi, il y a de la réindustrialisation, et ça, évidemment, que beaucoup de territoires sont partants.
Mais, de toute façon, c'est presque une règle de bon sens. S'il n'y a pas d'emploi, c'est relégation. C'est éloignement des bassins. On le voit bien. On peut faire une corrélation entre la dégradation du pouvoir d'achat et de la descente dans l'enfer social des populations par l'éloignement des bassins d'emploi. Jean-Luc, on est d'accord. Plus on se rapproche des bassins d'emploi par le logement, mieux on a des chances, effectivement, de trouver sa trace dans le schéma citoyen et social.
Je partage ça. Mais à ta question, j'aurais d'abord envie de répondre. Comment on s'en sort? Moi, c'est une conviction profonde en repensant l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire, c'est vrai sur la totalité du territoire national, c'est vrai à l'échelon de chacune des régions. Le SDRIF, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire de penser global pour après, sur le cockpit, je dirais, développer telle ou telle chose dans telle ou telle
région. Mais il y a un commissariat au plan ?
Oui. Bon. Qu'est-ce que
est-ce
ça.
Qu'il, est-ce, est-ce non, qu'on qu'est-ce retrouve qu'est-ce... les grandes lettres de noblesse qu'on a connues dans les années 70
Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des territoires qui aujourd'hui sont extrêmement dynamiques. Et on fait l'objet, dans ces périodes-là d'aménagement du territoire, d'investissements publics extrêmement importants, par exemple en termes d'infrastructures de transport, avec l'investissement public sur les TGV. Toutes les villes nouvelles qui sont autour ou tout au long des lignes TGV, je pense aux villes moyennes sur la côte, enfin de Paris à la côte ouest, sur la vallée du Rhône, à chaque fois, et on voit bien quand une ville se bat pour avoir un TGV, à Toulouse, parce que justement le transport permet l'aménagement du territoire et la vision globale. Et c'est la même chose au niveau d'une intercommunalité. Quand on pense le transport avec un BHNS, avec une grosse infrastructure comme sur le Grand Paris, une infrastructure de transport, voilà, on permet derrière d'avoir une vision. Donc c'est la première chose. Comment on a cette vision globale ? C'est d'abord en pensant l'équilibre des territoires dans le cadre d'une démarche globale. Et l'aménagement, alors, peut-être aujourd'hui ce sont des choses qui sont... ancien monde, je ne sais pas, mais la DATAR était une administration qui avait du sens et qui était utile au territoire.
Et on va devoir se quitter parce que malheureusement je resterai bien une heure ou deux avec vous. Là-dessus, je voudrais juste conclure en montrant le numéro 10 dans Vidville et avec en citant Jean-Luc Porcédo qui dit une chose très juste, c'est intéressant ce que vous dites. Ne pas innover, c'est risquer de se faire déclasser. Donc, en fait, vous faites une corrélation, et c'est exactement dans le schéma de ce qu'on a dit pour l'emploi et pour les missions qu'auraient les élus locaux. Moi, j'ai une proposition à faire. Si on veut être président de la République, il faut avoir exercé au minimum un mandat d'élu local. Ce serait pas mal, ça, hein, Jean-François.
Je suis d'accord.
Hein ? Merci beaucoup, Jean-François Vigier. Je rappelle que vous êtes le maire de Bures-sur-Yvette, président du groupe UDI au Conseil régional, du SIOM également de la Vallée de Chevreuse. Et vous avez d'ailleurs, je vous le rappelle tout à l'heure, mais il faut le répéter, mené une étude pour le Conseil régional sur la décentralisation. Je pense que le sujet sera peut-être politiquement un sujet majeur. Et on le voit d'ailleurs, les dessins politiques qui sont en train de se profiler, même s'ils ne sont pas très réjouissants, de toute façon, de tout ce bouleversement naîtra forcément des changements. Il faut juste espérer qu'ils soient positifs. Un grand merci à Jean-Luc Porcédo,
Sylvain,
directeur général de Next City Transformation et Territoire, président de Ville et Projet, membre du comité exécutif de Next City. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On vous souhaite un excellent
partagé.
Au revoir. Le CIMI 2024, en partenariat avec Envie de Ville sur Radio Immo et Radio Territoria.